Bonjour à tous, bienvenue sur France Inter, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. À la une aujourd'hui, cette question, la désescalade serait-elle enfin arrivée en Ukraine? En tout cas, le Kremlin l'assure. Une partie des troupes russes serait en train de quitter les abords de la frontière orientale. Les yeux des chefs d'État, des investisseurs et entreprises du monde se tournent vers ce qui semblait une zone de guerre glacée depuis des semaines. Dans un instant, on tente de comprendre ce qui se passe en ce moment avec le correspondant de France Inter à Moscou. Easy Life, la vie facile, slogan de l'entreprise Renault, Ready to Wigo, publicité de la SNCF, le franglais envahit la communication, dénonce aujourd'hui l'Académie française, au risque d'exclure une partie des citoyens. On en parle dans le journal avec l'une des autrices du rapport qui dénonce cette invasion, Dominique Bonnat. Dans le journal encore, nouveau conseil de défense sanitaire, alors que près de 4 millions de personnes voient expirer aujourd'hui leur passe vaccinal. Des nominations très politiques au Conseil constitutionnel aujourd'hui, la nationalisation d'EDF pas complètement écartée, ça amuse le candidat communiste à la présidentielle, Fabien Roussel.
Quand je vous dis que ma campagne commence à infuser les esprits, y compris celui de Bruno Le Maire, je m'en félicite, bravo, il peut rejoindre mon comité de soutien, je lui ferai passer un examen de passage avant pour savoir s'il a tout bon sur le reste, mais je me félicite de ce pas.
Fabien Roussel sur France Inter à 13h30, l'avenir de la candidate Christiane Taubira en question. Où va la campagne de l'ex-garde des Sceaux lâchée par le parti radical de gauche? Peut-elle encore continuer? On en parle avec notre invité, le responsable de son programme, Christian Paul. Vos questions 01 45 24 7000. À suivre aussi, deux nouvelles accusations contre le présentateur star de BFM et RMC, Jean-Jacques Bourdin. Une deuxième médaille française aux Jeux Olympiques de Pékin. Et puis juste avant, 14h dans la chronique Le Vif de l'Histoire. Chouette, un anniversaire, la revue La Hulotte a 50 ans et Jean Lebrun lui fait sa fête. Le 13-14, vous avez le menu, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Le monde et la France, les yeux rivés en direction de l'Ukraine, foyer de tensions depuis des semaines avec le déploiement de plus de 100 000 militaires russes à sa frontière qui fait craindre une invasion. Faille sismique pour les marchés financiers, inquiets de la flambée des prix de l'énergie qu'une guerre ouverte engendrerait. Toutes les bourses européennes ont fini dans le rouge hier, même les entreprises françaises commencent à sentir le conflit peser. Exemple, à Grès-en-Bouère, dans le sud Mayenne, Alexandre Frémont, l'entreprise Aedificantes qui produit des pieux vissés et son gérant en russe ont bien du mal à faire acheminer les matériaux nécessaires à leur activité.
Stanislav Simonenko doit adapter notamment les trajets de ses convoyeurs.
La grande partie des chauffeurs que vous avez qui travaillent pour des grandes sociétés, ce sont les Ukrainiens. Et donc du coup, il y a beaucoup moins de transports qui se font. Et quand ça doit traverser l'Ukraine, c'est vraiment impossible. Et en fait, du coup, actuellement, on est obligé de faire des détours énormes, soit par la Moldavie, soit carrément par la Turquie.
C'est donc plus long et aussi plus cher pour ses clients qui doivent payer un supplément pour faire acheminer certaines pièces. Il y a aussi ce problème de communication avec certains commerciaux en Ukraine qui ne veulent même plus lui parler.
Pour moi, ce qui était difficile, c'est perdre contact avec certaines personnes qui sont de là-bas. C'est parce que du coup, il y a ces tensions entre les deux pays. Je dis, les gars, moi je suis pas la guerre, moi je suis là, on travaille avec vous, quoi.
Et signe des tensions sur place, lui ne peut même plus entrer en territoire ukrainien pour le travail depuis 3 semaines maintenant avec son passeport russe.
Au tout début de tout ça, je devais aller en Ukraine, dans une petite ville pas très loin de la frontière avec la Roumanie. Et finalement, je pouvais pas passer la frontière. Effectivement, il y a quelque chose qui a changé. Parce qu'avant, bon, on y allait, on y va pour les affaires, on y va pas pour faire du tourisme ou autre chose.
Il prie donc pour que le conflit s'arrête et qu'aucune guerre ne se déclenche là-bas pour son entreprise d'abord, mais aussi pour ne pas voir de scènes d'horreur comme il a déjà pu le voir en Afghanistan il y a quelques années.
Alexandre Frémont, France Bleu Mayenne. Sauf qu'aujourd'hui, les indices boursiers rebondissent en Europe et pour cause, Moscou annonce le retour dans leur base d'une partie des militaires déployés à la frontière orientale de l'Ukraine. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Marion.
Correspondant de France Inter en Russie, c'est enfin la désescalade le long de la frontière ukrainienne?
Disons qu'il y a des signes de désescalade, mais il n'y a pas encore de preuves de désescalade. Ces signes, en tout cas, ce sont des images que l'on voit depuis ce matin. Le ministère de la Défense russe partage des vidéos sur ses réseaux sociaux où l'on voit des chars d'assaut qui, nous dit-on, quittent leur position, qui traversent des routes, ça on le voit bien, et qui montent sur des trains. Le porte-parole du ministère affirme que certaines unités donc qui avaient été envoyées aux frontières de l'Ukraine en ont terminé avec leur manœuvre et qu'elles vont rentrer à partir de maintenant dans leur garnison d'origine. j'imagine, par convoi ferroviaire et routier. Après les déclarations d'hier du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, qui affirmait devant Vladimir Poutine que la diplomatie avait toujours sa chance, c'est donc un nouveau signal de détente envoyé ce matin par Moscou, et ce alors que le chancelier Olaf Scholz discute en ce moment même avec Vladimir Poutine au Kremlin.
Et pourtant, hier soir encore, Sylvain, le secrétaire d'État américain Antony Blinken exprimait clairement les craintes des États-Unis face à une invasion russe jugée imminente.
Une agression dès cette semaine est tout à fait possible quand on voit ce qui se passe autour de l'Ukraine avec le déploiement des forces russes. On retient toute hypothèse pour avancer la diplomatie, mais dans un premier temps, ça dépend entièrement de la Russie.
Antony Blinken chez nos confrères de France 24. Sylvain Tronchet, est-ce que cet apparent début de retrait des troupes russes invalide pour de bon ces craintes occidentales ?
En tout cas, pour l'instant, ça fait le jeu du Kremlin, dont le porte-parole s'est un peu amusé de la situation ce matin, en dénonçant l'hystérie des Américains sur le mode « de toute façon, nous avions toujours dit que nous retirerions nos troupes sitôt les manœuvres finies ». Alors, ceci dit, l'armée russe n'a pas précisé combien d'unités ont débuté leur repli. Jusqu'à hier encore, pas plus tard qu'hier, des images satellites montraient au contraire l'arrivée de nouveaux éléments de l'armée russe aux frontières de l'Ukraine, des hélicoptères de combat notamment, et puis les manœuvres se poursuivent actuellement, notamment en Biélorussie, à peine 200 km de Kiev. Ces manœuvres conjointes avec les Biélorusses sont particulièrement importantes. Elles doivent se terminer le 20, dimanche prochain. Si dans 5 jours, ces unités-là remontent sur les porte-chars et repartent vers l'Est, alors là, vraiment, on pourra parler de désescalade.
Sylvain Tronchet, correspondant de France Inter à Moscou, la Douma, assemblée russe, demande aujourd'hui à Vladimir Poutine de reconnaître les régions séparatistes du Donbass dans l'Est de l'Ukraine. Le Parlement européen, lui, s'apprête de son côté à valider un prêt à l'Ukraine d'1,2 milliard d'euros. L'actualité en France, aujourd'hui, c'est cet énième conseil de défense sanitaire sur fond de vagues descendantes de Covid, contamination et hospitalisation en baisse, y compris dans les services de réanimation. Une réunion gouvernementale qui intervient la veille d'un nouveau desserrement des restrictions sanitaires et le jour même où près de 4 millions d'entre nous perdent leur passe vaccinal, faute d'avoir reçu une troisième dose dans les 4 mois après leur dernière injection au lieu de 7 jusqu'ici. 27 000 personnes seraient par exemple concernées dans les Landes, mais certains, comme Corentin, déjà vaccinés avec 2 doses, traînent encore pour effectuer leur rappel.
Là, on espère un petit peu un assouplissement des mesures sur les semaines qui viennent. Je me dis, bon, est-ce que voilà, pour 3 semaines, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller faire une troisième dose ? Est-ce qu'au final, je ne peux pas rester à la maison ? Je pense qu'il y a aussi le contexte électoral qui va rentrer en ligne de compte. Je me dis, c'est peut-être bon pour le gouvernement d'alléger un petit peu, de laisser la paix un petit peu aux gens.
Mais si, par exemple, vous vous trompez et que le pass vaccinal n'est finalement pas supprimé dans l'immédiat, vous faites quoi ?
Moi, cet été, j'ai tout un tas de projets. J'aimerais voyager. J'ai concert au Stade de France à aller voir. Bon, il y aura énormément de monde. C'est vrai que s'il y a toujours cette histoire de passe, malheureusement, ouais, je vais m'y plier. Même si c'est pas parce que je m'y plie que je suis d'accord avec ce qui est fait. Mais bon, je vais pas non plus mettre ma vie en stand-by pour une dose de vaccin, quoi.
Corentin, 28 ans, au micro de Nina Valette de France Bleu Gascogne. Pour l'heure, le monsieur vaccin du gouvernement évoque une disparition possible du pass d'ici fin mars, début avril. Un projet d'allègement du protocole sanitaire en entreprise doit être publié d'ici vendredi et permettrait, mais oui, le retour des pots au bureau et des règles assouplies pour les réunions. L'Ukraine et la Covid, ce sont les deux sujets qui conditionnent une candidature du président Macron à sa succession en avril prochain, le chef de l'État l'a dit lui-même. Pour le moment, il continue d'exercer son rôle de président avec, par exemple, le privilège de nommer des membres du Conseil constitutionnel, ce qu'Emmanuel Macron a fait ce matin. Nomination très politique, comme celle effectuée par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Yael Gauze.
Oui, une ministre modem propulsée parmi les sages. Emmanuel Macron choisit Jacqueline Gourault, 71 ans, fidèle parmi les fidèles de François Bayrou, au gouvernement depuis 2017, spécialiste de la ruralité et de la décentralisation, pas spécialement de la Constitution. Plus de 30 ans d'expérience comme élue locale et nationale. Avant la politique, elle enseignait l'histoire géo. Comme en 2019, Emmanuel Macron envoie donc un signal aux partenaires de sa majorité. Après le radical Jacques Mézard, c'est donc une fidèle alliée modem qui est nommée. Le président LR du Sénat, Gérard Larcher, a son mot à dire, pouvoir de nomination pour lui aussi, et son choix se porte sur François Senners, un proche, un conseiller d'État. Il fut son directeur de cabinet entre 2014 et 2017, également auprès de Rachida Dati, place Vendôme. Enfin, il y a la décision du président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Il nomme une magistrate, Véronique Malbec, l'actuelle directrice de cabinet d'Éric Dupond-Moretti. Nomination qui fera sans doute débat lorsqu'elle sera discutée au Parlement. Députés et sénateurs ont un droit de veto. Pourquoi polémique? Eh bien parce qu'en 2017, Véronique Malbec était la supérieure hiérarchique du procureur de Brest lorsque celui-ci a décidé de classer sans suite l'affaire des mutuelles de Bretagne.
Prise de fonction de ces nouveaux conseillers constitutionnels prévue le 14 mars, sauf vote inverse du Parlement. Pendant ce temps, à l'extrême droite, Éric Zemmour revendique ses 500 parrainages avant le pointage attendu du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, le candidat du parti Reconquête à la présidentielle assure par la voix de son porte-parole avoir parlé avec Donald Trump hier. Ne cédez rien, tenez bon, lui aurait dit l'ex-président des États-Unis. À l'extrême droite encore, Marine Le Pen, elle est dans l'Aisne en déplacement à Villers-Cotterêts pour parler langue française, là où doit s'ouvrir la cité internationale de la langue française voulue par Emmanuel Macron. Une sortie de la candidate RN qui coïncide avec la publication aujourd'hui d'un rapport de l'Académie française alertant sur l'usage du franglais dans la communication institutionnelle. Élodie Forêt, vous suivez ce déplacement de Marine Le Pen pour France Inter. Elle n'a pas raté cette occasion.
Oui, Marine Le Pen s'est réjouie ce matin de la publication de ce rapport, estimant qu'il correspond à ce qu'elle dénonce, une invasion de la culture anglophone et de la langue anglaise, une submersion linguistique qui, selon la candidate, aurait été encouragée par Emmanuel Macron.
On ne compte plus les dispositifs gouvernementaux, les événements organisés par le président de la République ou par le gouvernement qui sont en langue anglaise. Choice France était encore... la moins pire, on pouvait encore comprendre ce que ça voulait dire, mais il y en a des dizaines et des dizaines d'exemples.
Et autre exemple, justement, la nouvelle carte d'identité bilingue, une faute politique majeure, dénonce Marine Le Pen.
Je crois que c'est Mao qui disait « le poisson pourrit toujours par la tête ». Eh bien, il s'avère que dans le domaine de la défense de la langue française, très objectivement, le poisson pourrit par la tête.
La candidate qui propose donc un plan d'urgence pour la défense de la langue française avec notamment l'interdiction de l'anglais dans la publicité ou la communication sur la francophonie, tentait là aussi de réinstaurer le duel face à Emmanuel Macron.
Et pour évoquer avec nous ce rapport sur le franglais qui nous envahirait, nous sommes avec l'une de ses autrices, Dominique Bonnat de l'Académie française. Bonjour.
Bonjour.
Dominique Bonnat, vous dites que le franglais prend de plus en plus de place. Est-ce que vous avez quelques exemples?
Bien sûr. Alors les exemples ne manquent pas. J'invite d'ailleurs les auditeurs de France Inter à aller consulter ce rapport sur le site de l'Académie française en ligne, où ils sont énumérés, ils sont par dizaines et par dizaines. C'est vrai que je ne veux pas accabler, par exemple, le ministère de la Santé et des Solidarités, mais quand ils proposent d'aller sur le helpdesk Biocide, qui est le service national d'assistance, on est un peu inquiet. Ou quand le ministère de l'Agriculture propose de rejoindre le Food In Lab d'AgroParisTech. Donc c'est une invasion véritablement de ces termes anglais, des termes que nous avons tous, en tant que Français, Françaises, du mal à comprendre parce qu'ils sont compliqués, faussement modernes très souvent.
Quels sont les risques, en fait?
Ce qui est formidable, c'est que ce rapport sur lequel l'Académie travaille depuis des mois voit le jour en plein dans une campagne électorale et au fond, la langue française s'invite dans le débat national. Je crois que c'est une bonne chose que chacun puisse prendre conscience finalement que nous avons un beau patrimoine et qu'il faut en prendre soin.
Dominique Bonnat, quels sont les risques en fait de cette mode du franglais dans la communication, y compris la communication gouvernementale?
Le risque est grave parce que c'est effectivement une atteinte à notre langue commune à tous. Il y a, je crois, une partie de la population qui en arrive, une grande partie de la population, qui en arrive à ne plus comprendre les expressions couramment utilisées maintenant, que ce soit dans les ministères, les mairies, les collectivités. collectivité régionale ou locale, même parfois dans certains musées ou des grandes entreprises. Donc le langage devient élitiste. Or, un langage élitiste n'est pas un bon langage. Le langage est l'affaire de tous, il doit être compris par tout le monde, sans avoir besoin pour autant de faire des stages en Angleterre, aux États-Unis, etc., pour débattre des problèmes qui nous intéressent. Je crois que le principal écueil de tout ça, c'est d'isoler les gens qui ne peuvent pas suivre, si vous voulez, ce type de vocabulaire, trop technique, trop technocratique.
Alors une fois qu'on a fait ce constat-là, comment est-ce qu'on résout le problème ? Est-ce qu'il faut une loi, par exemple, pour garantir l'usage du français dans la société, par le gouvernement, par les entreprises ?
Peut-être faudrait-il une loi, je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'Académie française, il s'agit surtout de tirer une sonnette d'alarme et d'aider finalement la population à prendre conscience de l'importance de ce débat. Je crois que la prise de conscience, c'est la première des choses, que chacun ait une oreille attentive et un œil attentif à chaque fois qu'il y a des expressions qui ne sont pas véritablement en français. Est-ce qu'il était vraiment important pour le slogan des Jeux Olympiques d'afficher sur la Tour Eiffel « Made for sharing ». Made for sharing. Pourquoi ce slogan en anglais alors qu'on est à Paris, que les Jeux Olympiques vont avoir lieu en France et que, en plus, le français est la langue officielle normalement des Jeux Olympiques. Donc, il faut simplement une attention de chacun, de chacune, et une prise de conscience. Et je crois que le rôle de l'Académie, c'est cela, c'est aviser la population française du risque de détérioration de la langue.
Une attention, mais pas forcément de loi, si on vous a compris. L'académicienne Dominique Bonnat, merci à vous de nous avoir répondu sur France Inter.
Merci, au revoir.
Faut-il nationaliser l'électricien EDF ? L'option, en tout cas, ne semble pas totalement écartée. L'opérateur national français, largement endetté et forcé de plafonner ses tarifs, de vendre son électricité à bas prix à ses concurrents, tout en participant au programme de relance du nucléaire par l'exécutif. Situation complexe, donc le gouvernement envisage toutes les solutions, dit le ministre de l'économie aujourd'hui, pour aider l'entreprise dont il est actionnaire. Toutes, même la nationalisation, Delphine Simon. Alors comment ça pourrait fonctionner ?
L'État est déjà le principal actionnaire d'EDF dont il détient 83% du capital. Nationaliser l'entreprise publique reviendrait à racheter les parts ou indemniser les anciens actionnaires. Au cours actuel de bourse, cela coûterait à l'État environ 5 milliards d'euros, deux fois moins qu'il y a un an. Un tel retrait des marchés permettrait à EDF de sécuriser ses besoins de financement grâce à la signature de l'État et de se mettre à l'abri des agences de notation qui menacent de dégrader sa note, car EDF est surendetté et doit en même temps investir massivement dans la rénovation de son parc vieillissant et la relance du programme nucléaire. Cette nationalisation pourrait être temporaire, le temps de négocier une réforme de structure dans un cadre plus serein avec Bruxelles. Les dernières négociations menées avec la Commission européenne n'ont pas abouti et le projet baptisé Hercule reporté sine die. Une réforme de structure dénoncée par les syndicats mais que soutient le PDG. Jean-Bernard Lévy demande un redémarrage actif des négociations après la présidentielle.
La nationalisation, solution très hypothétique pour le moment, mais que salue le candidat PCF à la présidentielle, Fabien Roussel, sur France Inter. Journée spéciale Afghanistan sur France Inter. Aujourd'hui, 6 mois après le retour au pouvoir des talibans, ils ont instauré les mêmes lois répressives qu'entre 1996 et 2001, lois qui interdisent aux femmes, entre autres, de travailler dans la plupart des secteurs, sauf l'éducation dans le primaire et la santé. Mais certaines femmes résistent et veulent continuer de vivre comme avant, ou presque. Reportage dans un salon de beauté de Kaboul de l'envoyée spéciale de France Inter, Valérie Crova.
Depuis la rue, rien n'indique qu'il s'agit d'un salon de beauté. Au-dessus de l'entrée, le visage d'une femme a été estompé. Les nouveaux maîtres de Kaboul en ont gommé les traits.
Beauté du visage, maquillage, coupe de cheveux, manucure, tatouage, c'est ce qu'on propose. Et aussi des nettoyages de peau et des épilations du corps.
Pour cette jeune femme aux longs cheveux bruns qui tient ce salon depuis 4 ans, Il était impensable de mettre la clé sous la porte, malgré une baisse de 80% de sa clientèle et les menaces répétées des talibans.
Dans certains salons, les talibans ont envoyé des lettres de menaces disant « Vous devriez fermer ». Nous n'en avons pas reçu.
Censé attirer les clientes, toutes les photos à l'extérieur de femmes maquillées et apprêtées ont été remisées sur ordre des talibans.
Avant, on utilisait de grands posters de femmes avec de jolies voiles à la mode, mais on nous a dit d'enlever les photos qui étaient dehors parce que sinon on ne pouvait plus travailler. Depuis que les talibans sont arrivés à Kaboul, on a perdu ce magnifique sentiment d'être femme.
Ici, on vient se faire une beauté, même si les occasions de sortir se font rares aujourd'hui. Cette étudiante de 21 ans ne se résout pas à devoir cacher sa féminité.
Ce que les talibans veulent, c'est marginaliser les femmes. Si on ne fait rien, ça veut dire qu'ils auront réussi. Donc on doit résister en allant à l'université, à l'école, au salon de beauté et au travail.
Sur le même trottoir, un magasin de vêtements attire notre regard. Les têtes des mannequins femmes ont été enlevées parce que non conformes à la loi islamique, selon les fondamentalistes. Kaboul, Eric Audra, Valérie Crova, France Inter.
Journée spéciale Afghanistan sur France Inter qui continue ce soir à partir de 18h dans Un jour dans le monde. Vous pouvez aussi réécouter notre grand reportage Interception sur le site franceinter.fr. En France, une nouvelle victime de l'incendie de Saint-Laurent-de-la-Salanque a déploré aujourd'hui près de Perpignan. Huitième mort extrait des décombres après cet incendie dramatique survenu dans la nuit de dimanche à lundi. Les pompiers tentent toujours de sécuriser la zone. L'enquête continue pour déterminer une éventuelle origine criminelle de l'incendie. Le procès de Claude Guéant, renvoyé au 11 et 12 octobre. L'ex-ministre de Sarkozy est hospitalisé et doit être opéré pour des problèmes cardiaques. Un plan d'action contre le GHB, la drogue du violeur, le gouvernement le lance aujourd'hui. Il y aura des affiches de sensibilisation dans les bars et les boîtes, mais aussi entre autres un QR code à scanner pour accéder à une aide en ligne et des prélèvements ADN systématiques chez les victimes. Jean-Jacques Bourdin dans La Tourmente, le présentateur star de BFM et RMC, voit sa principale accusatrice sortir de l'anonymat. C'est Fanny Agostini qui dénonce toujours une agression sexuelle. Et une autre voix d'une autre journaliste se joint à la sienne pour dénoncer le comportement du présentateur star suspendu en ce moment de l'antenne. Bonjour Mathilde Emy.
Bonjour Marion.
Ces accusations se font de plus en plus précises.
Hein. Oui, ici Denis Bonnec invite dans son émission sur France Bleu, ici à Radio France, Fanny Agostini, le jour même où cette dernière porte plainte au commissariat contre Jean-Jacques Bourdin. Elles ne se connaissent pas, mais s'aperçoivent en discutant en coulisses qu'elles ont vécu un scénario assez similaire. Pour si Denis Bonnec, c'était en 2010, il l'invite en Corse après lui avoir proposé de tenir la revue de presse.
Promettre du boulot contre des faveurs, c'est ce que j'ai cru comprendre pour moi et d'autres. Parallèlement, faire en sorte que la personne ne soit plus vraiment chez elle. Moi, c'était peut-être mon futur patron qui me demandait d'étoffer mon carnet d'adresses en venant à ce festival à Calvi, toute seule, et qui me propose de venir dormir plutôt dans sa villa parce qu'il n'y a plus de place dans les hôtels, me disant de bien prendre mon maillot de bain. On n'est plus du tout dans le parcours professionnel.
Ses relations avec Jean-Jacques Bourdin étaient jusqu'à présent très cordiales, raconte-t-il Denis Bonnec. Elle n'a pas vu arriver ce qui se profilait et décide de refuser.
Franchement, j'étais sidérée et bouleversée, hein, parce que j'avais travaillé beaucoup sur cette revue de presse. Et puis je me disais, mais pourquoi c'est moi qui suis gênée? C'est quand même lui qui me fait une proposition gênante. Donc je le rappelle et je lui dis, Jean-Jacques, ça va pas être possible, il faut me trouver une place dans un autre hôtel. Et il m'a répondu, ce n'est pas possible. Ce sont les derniers mots qu'on s'est échangés. Et évidemment, j'ai pas eu le job. Il s'est évanoui dans la nature.
Si Denis Bonnec a le sentiment d'avoir échappé à quelque chose de grave, ce sont ces mots. Fanny Agostini, qui accuse le journaliste de lui avoir sauté dessus dans une piscine, notamment, écrit ce midi, « Je n'ai plus peur, je ne suis pas seule ».
Mathilde Emy pour France Inter. Et à 13h23, un mystère résolu. Vous vous souvenez peut-être de ce bruit non identifié à Huizerne, dans le Nord, on vous en avait parlé. Il durait depuis plusieurs mois, de jour comme de nuit.
Voilà, c'est parti. Vous l'entendez? Et là, vous voyez, ça commence. Donc, ça peut durer que quelques secondes, comme ça peut durer longtemps.
Eh bien, ça y est, les habitants vont enfin pouvoir retrouver leur tranquillité. La municipalité de Huizerne a réussi à trouver l'origine de ce bruit intempestif. Diane Sprimont, cela provenait d'un compteur de gaz défectueux.
C'est une habitante d'une commune proche qui met la puce à l'oreille de la municipalité. Elle habite Eckerd et elle est dérangée par exactement le même bruit. Cette dame alerte alors la mairie de Huizerne que dans sa ville, l'origine de ce son a finalement été identifiée. Il vient d'un compteur de gaz. GRDF est donc appelé pour intervenir au plus vite. Vendredi dernier, les techniciens commencent à explorer les compteurs de Huizerne. Ils finissent par en trouver un qui est défectueux et très bruyant. C'est celui d'un particulier et ils s'aperçoivent que le son strident vient du détendeur, c'est la pièce qui sert à faire baisser la pression du gaz. Miracle, une fois la pièce changée, le calme est revenu. C'est donc un énorme soulagement pour la municipalité et les habitants. Après avoir soupçonné une antenne 5G, après avoir sondé toutes les entreprises du secteur, le mystère se trouvait donc dans un compteur.
Diane Sprimont, France Bleu Nord. Aux Jeux Olympiques de Pékin et de 5 pour Quentin Fillon-Maillet. Le Français décroche sa 5e médaille et la 12e française en relais masculin de biathlon. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Marion.
Vous avez suivi pour Inter cette course folle par équipe terminée derrière la Norvège.
Exactement, et c'est un petit exploit historique puisque depuis 2006 et une médaille de bronze, la France n'avait jamais excellé dans ce format du relais. La preuve encore il y a 4 ans en Corée du Sud avec une 5e place, presque une anomalie au vu des qualités individuelles des Bleus à cette époque. Il y avait un certain Martin Fourcade. Erreur réparée donc avec ce quatuor en argent. C'est la médaille du mérite collectif pour Émilien Jacquelin qui a retrouvé le sourire.
Pour moi c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait se donner. Non pas seulement la médaille olympique, mais ça symbolise vraiment une amitié, une cohésion de groupe et surtout on se tire tous vers le haut. Et pour moi, voilà, ce genre de médaille en relais, elle a une signification qui est nettement plus importante que seulement avoir une médaille olympique.
Et à la lutte dans le dernier tour, c'est Quentin Fillon-Maillet, idéalement lancé, qui a assuré cette deuxième place. Le Jurassien, désormais, vous l'avez rappelé, lesté de 5 médailles en 5 courses. C'est du jamais vu pour un sportif français depuis près d'un siècle, jeux d'hiver et jeux d'été confondus. Mais impossible de s'en lasser, explique Quentin Fillon-Maillet.
Ça va être toujours très très fort. Vous imaginez que si les émotions n'étaient pas là après chaque course, ce serait un peu blasant. Et moi, ce que je veux, c'est voilà, profiter de ces belles émotions. Alors, je suis vraiment très content de faire ça avec les coéquipiers. C'était un pur moment de bonheur.
Quentin Fillon-Maillet, aujourd'hui en route vers un grand chelem inédit, puisqu'il lui reste encore une course à disputer. Ce sera vendredi, la Mass Start, un format qu'il adore. Marion, ça promet.
Jérôme Val, avec les moyens techniques de Sandrine Malon pour France Inter. Merci à tous les deux et on suivra ça avec vous. Ce n'est qu'un 8e de finale de Ligue des Champions, mais la rencontre a des allures de choc au sommet et une saveur toute particulière pour plusieurs footballeurs français. Le Real de Madrid, où joue notamment Karim Benzema, se déplace ce soir au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, lui aussi convoité par le club madrilène, coup d'envoi à 21h. Là, il ne s'agit pas d'un film à grand spectacle, comme la Ligue des Champions, mais d'une sorte de conte psychédélique. Le film After Blue sort sur les écrans demain, long métrage de Bertrand Mandicot, qui nous décrit une planète où les femmes ont trouvé refuge. Mathieu Culeron, le réalisateur, pratique le mélange des genres.
Après avoir quitté la Terre, les humains se sont retrouvés sur une planète sans prédateurs. Avec After Blue, une nouvelle fois, Bertrand Mandicot nous embarque dans son monde onirique, aux frontières de tous les genres.
C'est un film complètement hybride, quoi. C'est terrible de se figer dans un seul genre. Donc il y a du western, débarrassé des hommes, il y a de la science-fiction, débarrassé de la science, de l'héroïque fantasy avec plus de fantasy que d'héroïsme. Et ça crée ce film où la question du dominant et du dominé est toujours présente.
Les personnages du film s'appellent Roxy ou encore Kate Bush, des références directes à la musique pop, qui est une source d'inspiration aussi grande que le cinéma expérimental ou les westerns, pour le réalisateur Bertrand Mandicot.
Les références pour moi quand je fais un film, c'est aussi des albums. Je peux penser à Bowie faisant un album en me disant « Tiens, c'est marrant, il faudrait que le film ait la même teneur qu'un album de Bowie. » Voilà, ça fait aussi partie de mes références. J'étais nourri, biberonné à Metal Hurlant, à la bande dessinée, au cinéma underground, au cinéma expérimental, au cinéma fantastique. Enfin, je pense que je suis un peu sans frontières.
After Blue est une expérience, une quête psychédélique étrange et déconcertante. Mandicot semble avoir créé un genre tout en les déconstruisant. Il peaufine son style avec poésie et détermination.
After Blue, demain, dans vos salles de cinéma. À venir dans un instant, Christian Paul, responsable du programme de Christiane Taubira. Mais d'abord, la météo.
Notre première rencontre, c'était sur la piste de danse, à une sortie Disons Demain.
Tu ne savais pas où placer tes mains.
Et tu m'as même écrasé le pied.
Tout le monde nous regardait.
Et moi, je ne voyais que toi.
Vous aussi, provoquez le destin et rencontrez des célibataires de plus de 50 ans aux sorties Disons Demain. Liste disponible sur disonsdemain.fr.
France Inter aime...
Un autre monde, le nouveau film de Stéphane Brisé.
Je t'ai dit, ça allait être compliqué tant que le groupe Elson n'atteint pas ses objectifs.
Alors moi, je dépends du groupe Elson. Tu maries avec Elson.
Philippe et Anne divorcent. Leur amour s'est abîmé par la pression du travail.
Si on ne fait pas le job, ce sera notre responsabilité personnelle, notre faute, notre manque de courage.
Cadre performant, Philippe ne sait plus répondre aux demandes contradictoires de son entreprise. Il est à l'heure des choix. Un autre monde, avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin, le 16 février au cinéma, un film France Inter.
Le temps de votre mardi.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Nuages et pluies, sauf sur le sud-est.
Oui, du Roussillon à la région PACA, le soleil est là. Mistral et Tramontane aussi, jusqu'à 80 km à l'heure. Attention, le risque d'avalanche reste marqué sur les Alpes du Sud. Ailleurs, c'est souvent très nuageux avec quelques pluies, un peu de neige sur le Jura, sur le nord des Alpes, vers 800 mètres. On a de nouvelles pluies qui arrivent sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France. Puis elles vont gagner les Pays de la Loire, le bassin parisien et Champagne-Ardenne d'ici la fin de la journée. On trouve des éclaircies tout de même cet après-midi de la Lorraine et de l'Alsace jusqu'en vallée du Rhône. Côté thermomètre un petit peu comme hier, comptez 8 degrés à Besançon, 9 à Metz et Grenoble, 11 à Amiens, à Clermont-Ferrand, 12 à Paris, à Caen ou à La Rochelle, 13 degrés à Rennes, Bordeaux, Marseille, jusqu'à 16 à Perpignan. Et puis demain, ce sera gris et pluvieux quasiment partout. Seul le pourtour méditerranéen y échappera.
Elodie Calac de Météo France, merci à vous. Il est 13h30 sur France Inter.
France Inter, le 13-14. Marion Loup.
C'était il y a 15 jours et pourtant, ça semble une éternité. Dimanche 30 janvier, Christiane Taubira, arrivée première de la primaire populaire, mention bien plus. L'ancienne garde des Sceaux se retrouvait parée d'une légitimité nouvelle puisqu'elle était désignée candidate d'Union de la Gauche pour la présidentielle par près de 400 000 votants. C'était dimanche 30 janvier, mais depuis, rien ne semble avoir bougé. Christiane Taubira reste à quelques pourcents dans les sondages. Les autres candidats de gauche à l'élection suprême sont toujours là et voilà que le parti radical de gauche se met en retrait de la campagne. Est-ce une péripétie, comme le dit la candidate, ou la fin d'une aventure politique? Pour en parler, nous sommes avec Christian Paul, chargé de projet de Christiane Taubira. Bonjour.
Bonjour.
Je le disais, le parti radical de gauche se met en retrait de la campagne. Ça veut dire potentiellement 300 parrainages d'élus en moins. Christiane Taubira n'en a officiellement que 47 aujourd'hui. Avec le nouveau pointage, vous pensez être à combien ?
Alors, écoutez, d'abord, il y a un nouveau pointage. Donc, le chiffre que vous donnez, c'est celui de la semaine dernière. Et vous avez raison de dire que il y a deux semaines, Christiane Taubira a gagné de façon manifeste, éclatante, la primaire populaire. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Et il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'intimidation, de fake news, de tentatives pour verrouiller les parrainages. On reviendra peut-être d'ailleurs sur cette méthode des parrainages.
On en parlera, mais je voudrais déjà savoir combien vous en avez.
Alors, c'est le Conseil constitutionnel qui le dira, je crois, vers 16h. Donc, je suis évidemment très attentif à ce résultat. Vous savez, beaucoup d'élus ont reçu leur formulaire de parrainage il y a 8 ou 9 jours. Hein, c'est mon cas.
Mais il y a plusieurs candidats qui ont franchi la barre. Donc, vous pensez en avoir combien ?
Beaucoup avaient commencé il y a 2 ou 3 ans. Christiane Taubira l'a jamais caché, elle a décidé de rentrer dans la bataille présidentielle parce que la gauche était dans l'impasse, dans une impasse stratégique. Aucun candidat n'a réellement décollé. Elle est elle-même aussi dans une difficulté majeure. Comment faire aujourd'hui devant la dispersion des candidatures à gauche ? C'est la raison de sa candidature.
Donc Christian Paul, vous voulez pas me donner le chiffre ?
Non, écoutez, on peut téléphoner au Conseil constitutionnel si vous le souhaitez. On aura à 16h le comptage de cette semaine et un second viendra jeudi. Le parti radical de gauche n'a pas retiré ses parrainages.
Il se désengage en tant que parti.
Certains sont déjà arrivés et le président du parti radical de gauche, Guillaume Lacroix, a dit très clairement qu'il faisait un pas de côté, qu'il permettait une sorte de liberté de parrainage des élus de son parti en leur disant c'est Christiane Taubira, sinon rien. Donc les radicaux de gauche n'iront pas parrainer d'autres candidats. Et depuis ce matin, on le voit sur Twitter par exemple, beaucoup d'entre eux confirment leur engagement aux côtés de Christiane Taubira.
Mais c'est encore possible d'arriver à 500 d'ici la date limite du 4 mars.
Vous savez, quand on est, c'est le cas de Christiane Taubira, à la tête d'une initiative, quand on est une candidate citoyenne, c'est-à-dire une candidate qui n'est pas enfermée dans les partis, c'est forcément plus dur. Mais nous allons collectivement chercher les parrainages, un par un, nous allons aller chercher avec les dents.
Ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire que, évidemment, il y a les comités Taubira, qui sont très nombreux un peu partout en France, qui vont voir leurs élus pour discuter avec eux, pour leur dire, est-ce qu'il faut interdire Christiane Taubira d'élection présidentielle, ou est-ce qu'au contraire, il faut lui permettre, par le parrainage, qui est un acte personnel, on ne saisit pas le conseil municipal pour parrainer, c'est un acte personnel. Donc, les maires de France, hein, et je lance un appel aux maires de France, pour qu'ils parrainent Christiane Taubira, ils ont la possibilité de le faire en leur âme et conscience, à titre individuel, s'ils considèrent que c'est une voie utile dans un moment quand même très difficile, où l'extrême droite, on le voit bien, caracole dans le paysage politique, où il y a des langages de guerre civile qui sont portés dans cette élection présidentielle. Et je pense que dans ce moment-là très particulier, Christiane Taubira est une voix utile.
Alors, vous parlez des maires de France, il y avait eu un serment d'une centaine d'élus, qui avait, le serment de Romainville, qui avait promis de donner leur parrainage au vainqueur de la primaire populaire, en l'occurrence Christiane Taubira. Elles sont devenues quoi, ces 100 signatures?
Eh bien, j'en étais, et j'ai parrainé Christiane Taubira, et d'autres le font également.
Ah
ben, oui, mais encore une fois, rendez-vous au Conseil constitutionnel cet après-midi.
Il y a eu pression du Parti Socialiste sur les radicaux de gauche?
Je pense qu'il y a eu... Je crois que ça a été assumé, en tout cas, par l'équipe de la candidate socialiste. Je ne le dis pas pour le Parti Socialiste lui-même, mais je pense que l'équipe de la candidate socialiste s'est laissée aller à des manœuvres qu'on n'avait jamais vues véritablement à gauche, parce qu'à gauche, on considérait qu'on se battait pour des idées, pour un projet, pour un programme, et que les manœuvres d'empêchement n'avaient pas cours entre les candidats qui se réclament de la gauche, de l'écologie. Voilà. Ce qui prouve que cette campagne est particulièrement difficile, que là, au fond, l'explosion de la gauche française en 2017 n'est pas guérie. Il y a des plaies profondes et il faudrait que cette campagne, c'était en tout cas le sens de la venue de Christiane Taubira, et c'est le combat qu'elle va mener là dans les semaines qui viennent, c'est aussi pour refermer les plaies peut-être de cette gauche qui ne va pas bien. Et il y a des millions de Français qui attendent encore une fois ce rassemblement.
Au sujet de cette gauche, justement, question de Pierre au Standard de France Inter. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Paul. Bonjour France Inter. Bonjour,
votre monsieur. Question à Christian Paul.
Alors, je voulais demander pourquoi Madame Taubira, qui pronostiquait, qui prenait surtout l'union, qui est dorénavant impossible, pourquoi se maintient-elle aussi simplement que ça, au risque d'éparpiller encore plus, comme vous parliez vous-même à l'instant, de dispersion? Eh bien, les voix de la gauche, tout simplement. Pourquoi ne soutient-elle pas quelqu'un qui est mieux placé qu'elle?
Merci voilà. Pour votre question, Pierre. Réponse de Christian Paul. C'est vrai que le rassemblement de gauche n'est plus possible. C'est ce qu'a écrit le Parti radical de gauche dans sa lettre hier.
Alors, ce qui est à l'évidence extrêmement difficile, nous sommes à 2 mois de l'élection, mais c'est extrêmement difficile, c'est le rassemblement des partis. Et donc de leur candidat. Christiane Taubira n'est pas la candidate d'un parti.
Est-ce qu'on peut réussir sans un parti?
Le Parti radical de gauche est un compagnon de route, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut réussir à l'élection présidentielle sans un parti? Vous savez, les partis aujourd'hui à gauche, ils sont très faibles par rapport à l'histoire glorieuse qui a été la leur. Et donc, le fait qu'ils accompagnent un candidat ou une candidate ne suffit pas. Aujourd'hui, les citoyens ont envie de dire leur mot dans l'élection présidentielle. La primaire populaire, ça a été la volonté, peut-être parfois un peu maladroite, mais très sincère, pour des centaines de milliers de gens, de prendre en main l'élection présidentielle. Donc aujourd'hui, c'est vrai, ce qui fait sans doute l'identité de la candidature de Christiane Taubira, d'abord c'est une candidate pour la justice, c'est ça vraiment son mot d'ordre permanent, et puis c'est une candidate citoyenne, elle n'est pas prisonnière des partis. Donc c'est vrai, elle est en train de vérifier si aujourd'hui une candidature citoyenne émancipée des partis politiques peut vraiment marquer des points dans une élection présidentielle de la Ve République, qui obéit encore une fois à des règles extrêmement brutales, comme celle des 500 parrainages. Vous savez, à l'époque des investitures citoyennes, 500 élus, 400 000 votants dans une investiture. 400 000 votants dans l'investiture, c'est autant que toutes les primaires des autres partis de gauche additionnés. Donc ça a un sens. Et donc c'est pour ça que, j'appelle à l'intelligence collective des maires de France pour qu'ils parrainent Christiane Taubira.
Christian Paul, sur le fond, peut-être question sanitaire. Aujourd'hui, il y a un conseil sanitaire du gouvernement qui confirme la levée à venir des restrictions sanitaires, tout en durcissant aussi en même temps le pass vaccinal. Est-ce que c'est une politique sanitaire que vous validez, notamment en tant que responsable du programme de Christiane Taubira?
D'abord, la vaccination est la seule façon d'en finir durablement avec cette pandémie. Il faut évidemment avoir des moyens de vérifier cette situation. Ce que nous avons au fond reproché au président de la République, c'est pas tant telle ou telle mesure technique, c'est la façon dont les décisions étaient prises, la façon dont les Français se sont sentis depuis le début infantilisé, la façon très très militaire, très martiale dont on a voulu tout au long de cette pandémie en quelque sorte mettre l'état d'urgence en avant, mais pas forcément la coopération des Français. Moi je le vois en tant qu'élu dans une petite commune du Morvan, c'est vrai que nous avons dû très souvent compter sur nous-mêmes.
Donc la candidate Taubira est pour la vaccination, si je vous entends bien. Elle n'a pas toujours été claire sur ce sujet-là.
Elle a été très claire, c'est la situation en Guyane qui n'était pas claire, avec là aussi beaucoup de campagnes de pression sur la population, et je crois qu'elle a voulu à ce moment-là dire attention, si on veut que les gens se vaccinent, c'est pas en donnant des ordres, c'est en faisant comprendre l'importance absolue de la vaccination.
Alors Christian Paul, on le voit bien, là, une des préoccupations principales des Français dans cette campagne, c'est les salaires, le pouvoir d'achat. Alors Christiane Taubira, elle propose une grande conférence sur les salaires. La hausse du SMIC à 1400 euros, ça ne risque pas de peser sur la compétitivité française ?
D'abord, il ne vous a pas échappé qu'on est dans une période d'inflation. Et dans une période d'inflation...
On est à peu près à 3% par mois le mois dernier.
Dans une période d'inflation, si les salaires ne sont pas revalorisés, eh bien, il y a deux conséquences. La perte du pouvoir d'achat, évidemment, pour les salariés, notamment pour les salariés les plus faibles, parce que c'est là que l'inflation pèse le plus. Et puis, on le sait aussi, beaucoup de gens qui quittent leur emploi parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Et donc, on le voit en France, on le voit aux États-Unis, il y a aujourd'hui beaucoup de gens dans cette ambiance de crise. Vous savez, les Français sont très fatigués. 2 ans de pandémie, 5 ans de Macronie, c'est très pesant pour le moral de la population. Et donc aujourd'hui, je crois que les entreprises ont, avant même que nous puissions revaloriser le SMIC et organiser une grande conférence sur les bas salaires, parce que c'est la priorité, je pense que les entreprises seraient bien inspirées d'accompagner ce mouvement de reprise par une hausse des salaires. Puis c'est aussi une façon de relancer la consommation. Vous savez, relancer la consommation, c'est rarement mauvais pour l'économie française.
Christian Paul, avec Christiane Taubira, vous proposez aussi d'autres mesures sur le pouvoir d'achat. Un chèque alimentaire de 150 euros par mois sous condition de ressources. Un revenu de 800 euros par mois pour les jeunes.
Alors peut-être qu'on peut s'arrêter sur ce point.
Mais attendez, comment on finance tout ça ?
Pardon. Alors, Je reste un instant quand même sur la proposition, parce qu'elle est importante. C'est le premier pas vers ce qu'on appelle la sécurité sociale alimentaire. C'est faire en sorte que dans les familles françaises, on puisse manger plus sainement, on puisse manger des produits locaux, on puisse manger des produits bio. Il y a 9 Français sur 10 qui ont envie de le faire. Il y a 1 ou 2 Français sur 10 qui ont les moyens de le faire. Donc l'ensemble du programme, évidemment, nous le chiffrons. Nous chiffrerons également les ressources. J'observe aujourd'hui quand même qu'il n'y a aucun candidat qui a fait le chiffrage de son programme.
On leur pose la question
à commencer par Emmanuel Macron, qui officiellement n'est pas candidat. Et donc, c'est vrai, nous avons, en matière notamment de fiscalité nationale et de fiscalité européenne, bien identifié ce qui s'est passé ces dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'augmentation pharaonique des rémunérations. Donc nous avons travaillé sur ce que nous appelons un impôt sur l'extrême richesse.
Des grandes rémunérations, des hauts salaires, des grands patrons.
Sur Louis et les très grandes fortunes. Nous avons travaillé avec l'économiste Gabriel Zucman qui a vraiment mis en avant les augmentations de patrimoine, de fortune, les dividendes extraordinaires que cette période de pandémie a été un drame pour beaucoup de Français. Je l'ai dit, les Français sont très fatigués aujourd'hui par cette période, mais ça n'a pas été sans conséquences positives pour quelques-uns d'entre eux, pour quelques dizaines de milliers, qui se sont profondément et radicalement enrichis. Donc il faut radicalement inventer une fiscalité qui s'applique sur ces très grandes fortunes.
Donc c'est là qu'on trouve les financements. Alors, autre grande réforme défendue par Christiane Taubira, elle l'a dit ce week-end, le droit à mourir dans la dignité, l'assistance médicale à la fin de vie. C'est un sujet délicat. Comment est-ce qu'on l'encadre pour éviter des dérives ?
C'est un sujet qu'on ne découvre pas aujourd'hui. Il y a eu plusieurs lois, je crois qu'il y a, en raison des transformations profondes de la société, du vieillissement, aussi des maladies neurodégénératives qui se sont répandues dans le pays depuis maintenant quelques décennies. Je crois que l'idée qu'il faille être accompagné dans la fin de vie, accompagné d'abord par les soignants, les soins palliatifs. On manque aujourd'hui de services de soins palliatifs dans le pays. Et puis ensuite, à l'échelle de décisions individuelles, il faut aller un peu plus loin que la loi Leonetti qui, de l'avis de beaucoup de Français, notamment de familles qui accompagnent les personnes en fin de vie, ne suffit pas. Donc il faut un encadrement à la fois médical, familial, juridique. C'est pas au choix de porter.
Comment être sûr du consentement ?
Il faut pouvoir s'assurer du consentement et il faut aussi considérer que ça n'est pas au corps médical d'assumer à lui seul la responsabilité de la fin de vie.
Alors sur les retraites, votre candidate renvoie à la négociation avec les partenaires sociaux. Sur le nucléaire, un référendum.
Pas seulement. Non, pas seulement.
Alors elle maintient ce qui existe aujourd'hui, le départ
pas
à 60 ans
pour les. Si vous le permettez, je vois que vous avez lu avec assiduité le programme de Christiane Taubira, mais c'est bien. La retraite à 62 ans est un repère, mais nous souhaitons que la retraite à 60 ans, notamment pour les ouvriers, devienne la règle. Et ça veut dire que la pénibilité qui a été profondément sous-estimée dans les lois récentes soit remise véritablement à l'ordre du jour. Donc pour les ouvriers, c'est la retraite à 60 ans.
Bon, alors elle renvoie en partie à la négociation des partenaires sociaux. Sur le nucléaire, un référendum. Sur le logement, il s'était montré assez flou devant la Fondation Abbé Pierre. En fait, le programme n'est pas encore...
Elle a hésité 5 secondes sur le calcul de la hausse du RSA qui n'a pas bougé pendant tout le quinquennat d'Emmanuel Macron.
Ma question, c'est est-ce que votre programme est complètement construit ou encore en construction ?
Vous venez d'en faire la démonstration. vous avez énuméré une dizaine de sujets sur lesquels, et je pourrais vous en citer beaucoup d'autres, nous avons proposé une politique pour la jeunesse qui est d'une ambition sans précédent. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la moitié des jeunes Français qui font des études sont obligés de travailler. Est-ce que c'est l'égalité réelle ? Non. Vous avez aujourd'hui des centaines de milliers de jeunes Français qui font la queue devant les banques alimentaires. Est-ce que c'est l'égalité réelle ? Pas davantage. Donc nous avons une politique pour la jeunesse. Christiane Taubira a présenté le programme écologique, le programme de transformation écologique du pays. Je crois que cette présentation a été saluée comme très sérieuse et très rigoureuse. Voilà, donc elle a un projet.
On va s'arrêter là, on ne va pas décliner toutes les mesures du programme. Malheureusement, Christian Paul, chargé de projet de Christiane Taubira, toujours candidate à l'élection présidentielle. Merci d'être venu sur France Inter.
Merci beaucoup.
France Inter, le 13-14.
13h45 à suivre sur Inter, deuxième épisode de notre feuilleton au lycée Antonin Artaud de Marseille. Il ramène des élèves de filière pro vers l'enseignement général. L'un des secrets, c'est le travail en tout petit groupe, vous verrez. Un peu plus tard, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Marion.
Et joyeux anniversaire la chouette.
Oui, la Hulotte a 50 ans, elle est loin de l'âge de la retraite.
Rendez-vous juste avant 14h, mais tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Marion.
Jusqu'à dimanche au 104 à Paris, l'acrobate et metteur en scène Siriaka Arrivel présente son nouveau spectacle, La Dimension d'après. Il est à votre micro, Frédéric, le temps d'une chanson.
Et son spectacle, il en a puisé la matière dans un accident. Survenu en 2017 lors d'une représentation, Siriaka Arrivel a fait une chute spectaculaire. Et ce n'est pas sans rapport avec la chanson dont il a choisi de me parler, l'un des titres de Rock Bottom, le deuxième album solo de l'anglais Robert Wyatt.
Il était avant batteur, et en fait en 73, je suis pas son biographe, mais il est tombé de 4 étages, et il a perdu l'usage de ses jambes, il est devenu paraplégique. Et en fait il a dû arrêter la batterie, et il s'est mis à la trompette. Et cet album-là, il a été pensé un peu avant, mais il a commencé à réécrire à l'hôpital et ensuite il l'a enregistré. Je trouve ça très beau qu'il ait annoncé un retour après cette chute, une transformation aussi d'un événement en chose, en plus je trouve assez flamboyante. Moi, j'aime beaucoup ce morceau aussi, le petit chaperon rouge prend la route, en traduction française, parce qu'il y a plein de couches de trompettes, des rythmiques à l'envers. Du coup, il y a une énergie aussi, je trouve, très forte dedans qui se dégage. Il y a un côté un peu héroïque. Et aussi, ça renvoie, moi, à des histoires personnelles par rapport au cirque. Et aussi les chutes que j'ai pu vivre.
Vous êtes tombé souvent ?
Je suis tombé souvent en entraînement. J'ai aussi eu une chute assez forte en public. C'était impressionnant parce que c'était un spectacle, du coup, devant 400 personnes. Mais c'était assez parlant parce que c'était un moment du spectacle où je dis « je tiens à quelqu'un » et quelque chose s'est déchiré. Spectacle que je fais, La Dimension d'après, parle de ça, de cette chute-là. Et du coup, je me suis rendu compte qu'une chute, c'était pour pouvoir annoncer aussi en retour. Du coup, il y a plein de choses comme ça qui me parlent dans cet album et cette chanson particulièrement.
Et le titre de cette chanson, Frédéric, en anglais cette fois, c'est Little Red Riding Hood Hit the Road.
Donc en français, comme le disait Tsiriaka Harivel, le petit chaperon rouge prend la route, un titre très énigmatique. Comme l'est finalement cette chanson?
J'ai l'impression que c'est une espèce de plainte et de réveil. C'est un peu bizarre. Il invente des mots un peu. Moi, j'ai l'impression que c'est une discussion entre un lui intérieur et un lui nouveau. Et j'ai l'impression qu'il remonte le temps au fur et à mesure que la chanson avance et qu'il traverse les trompettes comme ça et que t'as les rythmiques qui viennent à l'envers. Et j'ai l'impression vraiment qu'il essaie de remonter sa chute. Bon, c'est un truc que je m'invente. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a, comme je disais, il y a un truc un peu héroïque, quoi. D'avancer contre les vents.
Vous entendez cette chanson-là, vous êtes traversé par quel genre d'émotion?
Peut-être dans cette chanson-là, il y a un véritable élan et ça me donne envie de me lever. Moi, je fais de la trompette et du coup, si je suis touché par le fait qu'il y ait plein de trompettes, j'ai toujours aimé l'énergie des soufflants. Je trouve que c'est quelque chose qui est super fort et qui crée un véritable soulèvement. Et quand le chant arrive, je trouve que c'est super beau, très très personnel et très très intime. J'adore, quoi.
Little Red Riding Hood Hit the Road, Robert Wyatt. C'était donc Frédéric, le choix de l'acrobate Tsiriaka Harivel.
Dont le nouveau spectacle La Dimension d'après est à voir actuellement au 104 à Paris. C'est jusqu'à dimanche.
Merci Frédéric, à demain.
À demain.
À 13h50 sur France Inter, suite de notre feuilleton au lycée Antonin Artaud de Marseille. Nous sommes dans une classe de remise à niveau pour des élèves de bac pro qui rêvent de rejoindre l'enseignement général, IUT, grande école ou classe prépa. Après cette année, Kylian compte bien postuler lui à une de ses CPGE sur la plateforme Parcoursup. Il l'a dit à Sarah Guibaudot.
Moi, je m'appelle Kylian Gaillat. J'ai fait un bac pro, je suis terminé ma troisième et je l'avais raté. Faut dire qu'en troisième, je m'intéressais pas trop à mon avenir.
Vous étiez quel élève en troisième?
Pas un très bon élève, si vous voyez, j'avais pas des moyennes super hautes. Disons que premier semestre, j'avais 16 de moyenne en histoire géo, j'avais une bonne moyenne en mathématiques aussi, tout ça. Deuxième semestre, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Je suis dysorthographique, dyslexique, et donc j'ai arrêté de prendre des cachets pour cette concentration-là, et du coup, toutes mes notes ont dégringolé comme jamais. C'était la misère, quoi, voilà. Du coup, je suis parti en bac pro, et de là, en fait, c'est eux qui m'ont vraiment incité à me mettre au travail. Au bac pro, ils étaient géniaux, mais tous mes professeurs étaient géniaux.
Quelles règles et exigences faut-il s'imposer dans le dialogue? Voilà, exactement, pour tendre vers la vérité, disons, hein, on va rester modeste. Comment on fait pour découvrir que la Terre n'est pas plate? Comment on fait pour vérifier que les Noirs et les Blancs ne sont pas de race inégale par nature? Comment on fait, quoi, voilà, comment on fait pour sortir de l'erreur, de l'illusion, etc.
Comment ça se passe dans cette classe prépa? D'abord, vous travaillez beaucoup?
Oui, on a un emploi du temps chargé, ça on peut le dire. Ce qu'il y a d'original, c'est que déjà, on fait beaucoup plus participer les élèves, vu qu'on est en petit groupe. Après, normalement, on est censé être 20, mais avec le Covid, on a été 10 au départ, 11. Les professeurs sont plus attentifs. Certes, le programme, il est lourd, mais en fait, tout le monde a le temps de comprendre chaque cours, un par un. Et c'est ça qui change par rapport aux autres classes, parce que les autres classes, on était 30. Pas tout le monde avait le temps d'être avec le professeur pour qu'il nous explique.
Moi, je suis frappée aussi. Je ne sais pas comment c'était dans votre lycée professionnel, mais tout le monde est attentif, tout le monde participe et il n'y a pas de bruit. Ça, c'est assez frappant quand même.
C'est vrai que dans notre classe, on est tous très studieux parce qu'on veut, tous réussir, on a tous un but. C'est vrai que c'est rare d'avoir une classe comme ça. Mais moi, j'ai été choqué quand je suis arrivé ici. Parce que dans mon lycée pro, c'était pas du tout comme ça. C'est l'effet du petit groupe, quelque part, qui nous fait être plutôt sages.
Si on me dit que ton raisonnement est absurde, c'est pas la même chose si on me dit que tu es quelqu'un d'absurde, vous voyez. Dans un cas, on parle d'une chose, mon raisonnement, dans l'autre cas, on parle de moi. Et là, ça m'énerve. Comme ça m'énerve, je me déforme, l'autre se déforme, etc. Et puis on se dispute, on se crie dessus. Et dit Socrate, on s'en veut même d'avoir assisté à ça. Plus vous allez faire de la philosophie, plus vous allez observer que ce que dit Socrate se vérifie parfaitement dans beaucoup de discussions. Et qu'en fait, vous vous rendez compte que les gens se hurlent dessus, s'énervent, en famille, entre amis, etc. Tout simplement parce qu'ils ne parlent pas la même chose. Ils n'ont pas pris le temps de définir clairement le problème.
Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, plus tard? Qu'est-ce que vous espérez en venant ici?
Moi, vraiment, je veux devenir ingénieur parce que il faut avoir un bon milieu social, pas comme mes parents.
Qu'est-ce qu'ils font, vos parents?
Ma mère, elle travaille à la mairie. Elle manque beaucoup d'argent. Pour moi, c'est vraiment très important parce que j'aime pas être en manque d'argent, ça va me stresser et du coup il faut que j'ai beaucoup d'argent plus tard. Mais aussi que mon travail me plaise, parce que s'il me plaît pas, je vais pas pouvoir m'investir. Donc du coup voilà.
Donc la prochaine fois, bien on peut-être on va finir à l'écriture du texte et vous ferez la première version de la deuxième partie. Voilà, et oui, c'est l'heure.
Une semaine au lycée Antonin Artaud de Marseille, feuilleton de Sarah Guibaudot réalisé par Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire. Chouette, ces jours-ci, la hulotte a 50 ans. La chouette est si perspicace qu'elle symbolise l'histoire. Jean Lebrun, l'étonnante collection de publications que vous allez évoquer aujourd'hui est nommée la hulotte, peut-être la plus grande des chouettes, c'est dire la qualité de son regard.
Elle ne croyait pas qu'elle ne soit aux aguets que la nuit. À l'heure où nous parlons, à Boult-au-Bois, petit village des Ardennes, l'atelier de la hulotte est sûrement au travail, comme chaque jour, depuis l'aurore jusqu'au soir. Pierre Desommes, le père fondateur, l'ancien instituteur, se tient à sa table. Son petit groupe d'une demi-douzaine de coopérateurs picore, compile, entasse, salut à eux tous. Imaginez, Marion, une maison qui ouvre par ses fenêtres et jusque par son toit, sur le bois alentour, à l'extérieur des centaines d'yeux d'animaux, d'oiseaux regardent les humains qui les regardent. L'équipe de la hulotte repose sur cette multiplicité de points de vue. De même que l'homme n'est pas à l'origine de tout, le point de vue de la mouche doit être pris en compte comme celui de l'hirondelle qui la gobe.
Et de l'atelier de Boult-au-Bois sort peut-être deux fois long un cahier de 44 pages et 105 dessins quasi encyclopédiques consacré à un animal, souvent un oiseau. Au bout de 100 numéros consacrés à quantité d'espèces, l'équipe en est arrivée au moineau.
Alors c'est bien de lire les trois numéros qui sont consacrés au moineau, parce que en cette saison, le moineau se sent, voyez Marion, un peu bizarre. La taille de ses testicules est multipliée par 100 en un mois, entre février et mars, en cette période.
M'en dirait-on.
Si la ville ne fait pas trop de boucans, que vous écoutez bien, le moineau se met à chanter avec insistance devant un nid qu'il s'aménage, histoire de dire « c'est chez moi » et d'inviter avec insistance les moinelles qui passent à le rejoindre. Et au printemps qui vient, il multipliera les accouplements à l'infini. Une couvée à peine nourrie, il la jettera dans la nature dévoratrice pour faire place à une nouvelle, comme s'il savait que sa propre vie s'interrompra généralement à 3 ou 4 ans.
Et la hulotte en est-elle, on le disait, à 50 ans?
Bah oui, l'histoire, elle est faite de temporalités différentes et celle de la hulotte est plus lente. La hulotte est née d'une modeste initiative dans le milieu enseignant. C'était au départ un simple bulletin de liaison entre clubs naturalistes de différentes écoles primaire des Ardennes, et puis le nombre des clubs n'a pas été atteint, pas aussi haut qu'envisagé. En revanche, le plafond des abonnés a été crevé. Chaque numéro serait aujourd'hui servi à quelques 140 000 abonnés. Enfin, en réalité, chaque numéro ne sortant qu'une fois près, jusqu'au dernier bouton de guêtre, l'apparition est un peu irrégulière et les abonnés ne savent plus très bien s'ils le sont encore ou s'ils ne le sont plus. La précision à la hulotte, faut pas la chercher dans le marketing, il n'y en a pas, mais dans la documentation, elle est pléthore.
Et justement, que nous dit la hulotte de l'état de la population mondiale des moineaux sur laquelle on a beaucoup d'informations alarmantes?
Il faut dire que le moineau est le passereau le plus répandu sur la planète. Il vit aux dépens de l'homme sans lui apporter le moindre service et il l'a accompagné partout, sauf dans les forêts. jusqu'aux extrémités du monde. À Terre-Neuve, on l'appelle l'oiseau des glaces. Mais d'un autre côté, il faut bien admettre que ses effectifs déclinent aujourd'hui assez mystérieusement. Alors les savants, c'est une expression qu'utilise souvent la Hulotte, les savants, se grattent l'occiput. À quoi attribuer la chute du nombre des moineaux? Il n'y a plus guère de chevaux, dont ils ouvraient vivement les crottes. Les chevaux tiraient des moissonneuses batteuses lieuses, au rendement approximatif, qui laissaient échapper quantité de grains. Les machines agricoles sont aujourd'hui verrouillées. Les moineaux ne savent plus quelle anfractuosité trouver pour se loger, depuis que l'isolation écologique des logements rend ceux-ci aussi hermétiques que des bouteilles thermos. Autre explication, les humains ont multiplié les chats, au point que les moineaux n'ont jamais été confrontés à d'aussi nombreuses agressions contre les personnes. Que fait la police? Alors on voit qu'elle a eu l'autre, on a le sens de l'humour. On veut aussi faire place toujours à une multiplicité des points de vue. Alors cette multiplicité des points de vue, vous allez l'éprouver. Marion, en vous abonnant et en abonnant toute votre petite famille, les enfants adorent recevoir du courrier de Boult au bois à la Hulotte. Je vous laisse déchiffrer l'adresse.
Oui, alors 08 249 Boult au bois et www.lahulotte.fr. Jean Lebrun, merci, notre historien qui est chouette, lui aussi. Et dans quelques minutes, La Terre au carré avec Camille Cronier et Mathieu Vidard. Bonjour.
Bonjour Marion, on est fan de la Hulotte d'ailleurs, nous ici, hein, je peux vous dire.
Oui, mais c'est pas d'elle que vous parlez aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, il fait chaud chez vous.
Hein. Oui, une catastrophe qui a marqué les États-Unis, c'est la canicule de Chicago en 1995.
On reste à l'écoute.